Théologie naturelle, 25 mai 1984, Père Marie-Dominique Philippe, Rimont.
Donc après avoir essayé de comprendre la manière dont saint Thomas posait le problème de la création dans la somme théologique, nous essayons maintenant de saisir comment le philosophe, le métaphysicien, peut découvrir ce qu'est la création. Et je vous avais dit que c'est à l'égard du problème de la création, peut-être que nous voyons le mieux comment la théologie se sert de la philosophie, se sert de la sagesse philosophique. Le passage de la sagesse philosophique à la sagesse doctrina sacra, c'est-à-dire une sagesse qui s'appuie sur la foi, c'est sans doute à l'égard de la création qu'on le voit mieux. On le voit déjà par rapport aux preuves de l'essence de Dieu, on le voit par rapport à tout le traité de la manière d'exister de Dieu, c'est sûr, mais à l'égard de la création, d'une façon très particulière. Je crois que c'est un des lieux où on voit le mieux le passage de ce qu'on peut appeler les préambula fidei et le problème, les préambules de la foi, n'est-ce pas les préambula fidei de saint Thomas. Et les préambula fidei, c'est ce que l'intelligence humaine peut par elle-même atteindre. Donc, le passage de ces préambula fidei à la doctrina sacra. Donc à la théologie telle que saint Thomas nous la donne dans la somme, telle que saint Thomas l'a élaborée à travers toutes ses œuvres théologiques. Non pas seulement saint Thomas, mais saint Bonaventure et les autres. Mais saint Thomas, comme toujours, surtout quand vous le comparez à saint Bonaventure, vous voyez qu'il y a un aspect de théologie scientifique qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus précis. Et c'est pour cela que la dernière fois, je vous rappelais cette chose particulière, comment la sagesse est science. Comment nous pouvons parler d'une sagesse qui implique le point de vue de la science. Alors, je ne reviens pas sur ce problème. S'il y avait des difficultés, vous pourriez les noter. Et puis le dire autrement, je ne reviens pas sur ce problème. Je vais tout de suite voir avec vous comment se pose le problème de la création au niveau sagesse philosophique. Ayant découvert l'existence d'un être premier, que les traditions nomment Dieu, le philosophe essaie de comprendre la manière d'exister de cet être premier. Ça, il peut le faire tout de suite. Dès qu'il en découvre l'essence, dès qu'il en découvre la nécessité que cet être premier existe, celui que nous appelons Dieu, il peut réfléchir sur la manière d'exister de cet être premier. Et découvrir en premier lieu sa simplicité. Que le problème de la simplicité de Dieu, c'est un problème que nous pouvons découvrir directement à partir de l'être premier, sans se poser encore le problème de la création. Pas la peine. Cet être premier est découvert dans son absolu, il est découvert comme absolument saint. Il est découvert comme absolument parfait. Il est découvert comme bon, la bonté, perfection et bonté. Et puis, il est découvert comme infini. Au fond, ces quatre premiers moments regardent l'être premier en lui-même. Sa manière d'être. Et dans cette lumière, et au fond, là, vous avez bien un raisonnement scientifique, hein, parce que vous dites, cet être premier que j'ai découvert, il est absolument simple. C'est une conclusion à la fois de sagesse et de science, puisque vous le concluez à partir de la primauté. Tout ce qui est premier, dans la mesure même où il est premier, il est simple. La simplicité est l'apanage du premier. C'est la première conclusion scientifique de la sagesse. Puis la seconde, c'est la perfection. Et à la perfection est liée la bonté. Et puis l'infini. Je crois que ce sont les quatre grandes conclusions de la sagesse science. C'est important à souligner. Après, je peux regarder comment cet être premier, il est un vivant. Le domaine de l'être, ici c'est le domaine de l'être, et puis le domaine de la vie. Il est un vivant. Un vivant qui ne peut être que esprit. Donc, qui est lumière. Et qui est amour. Le philosophe peut préciser que cet être premier est lumière et amour. C'est-à-dire qu'il implique le point de vue de la vérité. En lui-même, sa vie ne peut être qu'une vie contemplative. Une vie contemplative de lumière et d'amour. Philosophiquement, je peux dire cela. Très peu de philosophes l'ont dit, hein, mais Aristote l'a dit. C'est quand même assez remarquable dans tout son livre Lambda. Donc ne disons pas que ça relève de la révélation. Il y a un fait. Le livre Lambda montre bien le point de vue de l'être, l'acte pur. Tout cela est précisé à partir de l'acte pur. Et les conclusions de cette sagesse sont des conclusions au niveau du comment. Ce qui montre très bien que le caractère scientifique de la sagesse, et c'est une science qui n'est pas parfaite, comme science. Puisque pour qu'il y ait science parfaite, il faut partir des principes propres de la réalité pour conclure à des conclusions. Tandis qu'ici, on ne conclut pas au sens strict des propriétés, mais des manières d'exister. Mais c'est quand même une conclusion scientifique d'une science imparfaite. La sagesse est atteinte dans une science imparfaite, mais quand même dans un raisonnement scientifique. Alors, acte pur, vie. Je me pose ensuite la question, et c'est là où nous découvrons alors le propre du problème de la création, quels sont les rapports de cet être premier et de moi-même, de l'homme, puisque toute la philosophie regarde le point de vue de l'homme. De l'homme et avec l'homme, l'univers. Mais vous comprenez bien que l'univers est vu en fonction de l'homme. C'est vrai, je peux me poser la question de l'univers, donc de toutes les autres réalités, de tout ce qui est, de tout ce qui existe. Quels sont les rapports entre l'être premier et toutes ces réalités? C'est à ce moment-là que se pose le problème de la création. Alors comprenons bien et essayons de bien saisir cela. Parce que c'est là où il faut faire un effort d'ordre philosophique, d'ordre sagesse. Je ne suis plus au sens strict en métaphysique. Et voyez tout de suite la différence. La métaphysique saisit ce qui est et analyse ce qui est. Tandis que la sagesse est au niveau existentiel. C'est au niveau de l'existence d'un être premier, de ses manières d'exister et des relations qui existent entre l'existé premier et l'existé second. C'est-à-dire les existés, les autres. Tout ce qui est autre par rapport à l'être premier. Quel est ce lien? Je me pose nécessairement ce problème. C'est ça qu'il faut bien comprendre, comment on se pose ce problème. Je pose nécessairement ce problème. Pourquoi? Parce que les traditions religieuses parlent de la création. Même si elles en parlent avec des tas de mythes et de choses qui sont assez particulières, elles en parlent. Alors là, il y aurait à un moment, il y aurait une enquête très intéressante à faire, c'est de regarder tous les mythes des traditions religieuses sur la création. Et de voir comment ces traditions religieuses en parlent. Alors, c'est intéressant à faire, c'est une enquête qui est intéressante à faire. Et parmi les traditions religieuses, il y en a une qui est particulièrement pure, c'est la tradition religieuse judéo-chrétienne. En tant que philosophe, je dois m'intéresser à cette tradition, je n'ai pas le droit de pas m'en intéresser. Et selon cette tradition judéo-chrétienne, on parle les deux récits de la création. On parle que la création est une œuvre d'intelligence, c'est-à-dire de sagesse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, donc c'est par la parole que Dieu crée. Que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et puis, il y a un second récit par le geste. Et je vois que l'œuvre de la création implique un ordre de sagesse, et implique un amour de surabondance. Dieu n'était pas nécessité, n'était pas obligé de créer. Donc la création n'apparaît pas comme une nécessité immanente à Dieu. Je prends encore une fois ces deux récits les plus purs. Je peux, donc, premièrement, vous voyez, enquête, si on avait le temps. Ça vaudrait la peine, parce que c'est très intéressant, de regarder tous les mythes des créations religieuses. Vous savez bien que le plus ancien mythe de la création religieuse, c'est le mythe colombien. Il faut bien se rappeler ça, toujours. Au commencement était le canard et le soleil. C'est comme ça que ça commence. Et le soleil dit au canard, il n'est pas bon pour toi d'être seul. Vous retrouvez des choses qui sont présentes. Alors, plonge dans l'eau, vous voyez. Alors, ce qui est toujours dans les mythes ne sont pas logiques. Donc, il y a tout le temps quelque chose qui montre que ce n'est pas logique. Vous n'avez qu'à lire même les grands, que le philosophe appelle les grands mythes de la tradition judéo-chrétienne, c'est pas du tout logique. C'est pas logique du tout, non. C'est en dehors du point de vue de la logique. Ce sont des mythes religieux. Seconde enquête. Qu'est-ce que les philosophes ont dit de la création? Une enquête proprement philosophique. Quel est le premier philosophe qui a parlé de la création? Dans notre tradition occidentale. Quand vous regardez Parménide, vous avez l'impression que c'est impossible. L'être est, et en tant qu'il est, il est en dehors du devenir. Et qu'à côté de l'être, il y a le devenir, comme je dis, on ne parle pas des liens entre les deux. Je crois que le premier qui a parlé de la création, c'est Platon. C'est le premier qui a réfléchi en tant que philosophe sur la création. Dans le Timée. Et c'est dans le Timée que vous avez la première analyse de la création. Et ça, c'est la grandeur de Platon, hein. C'est d'avoir quand même osé traiter la question de la création. Comment comprendre la naissance de notre univers? Notre univers est un univers qui implique un devenir. Et parce que notre univers implique un devenir, il ne peut pas être premier, il est nécessairement dépendant d'un autre. Et cet autre, c'est Dieu. C'est celui qui, lui, est nécessaire. Et alors, tout le mythe, toute la philosophie de la création, il ne s'agit plus d'un mythe, là. C'est mélangé avec le mythe. Tout le logos de la création, au plan philosophique, est traité au niveau du devenir.
que c'est traité en fonction d'une œuvre du facere. Alors c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Une œuvre d'art. L'univers est une œuvre d'art. Dans la perspective de Platon. Et donc le démiurge est celui qui contemple une cause exemplaire. À partir de cette contemplation de la cause exemplaire, le démiurge réalise l'univers. L'univers qui est parfait. Un animal parfait, puisqu'il a l'âme de l'univers. Un vivant. Mais c'est en fonction de l'analogie du facere que Platon découvre ce qu'est la création. Je crois que ça, c'est la première analogie que nous voyons. C'est intéressant de regarder, au point de vue historique, où se trouvent les diverses manières dont nous devons concevoir la création. Parce qu'il y a des philosophes qui en ont parlé, donc c'est tout à fait inutile de se considérer comme tabula rasa. Nous devons au contraire nous mettre à l'école de ces philosophes et essayer de comprendre si ce qu'ils ont dit est intéressant ou au contraire manque d'intérêt. Nous savons que face à cette grande manière, pour relire de temps en temps le Timée, c'est quand même une très belle œuvre de Platon, et c'est une œuvre où on voit la manière, pas tout dans le Timée, dans le Timée il y a des tas de choses qui sont très à côté, mais il y a au moins cette grande vision de Platon d'essayer de comprendre l'univers comme une œuvre parfaite qui provient du démiurge. Face à cet effort de Platon, la grande critique d'Aristote, dans le Decelo, où Aristote dit que ce que dit Platon ne peut pas être la vérité. Pourquoi ? Parce que Platon reste au niveau du devenir. Ce qui est au niveau du facere. Le facere implique un devenir. Donc, ça ne peut pas être un devenir, puisque tout devenir implique une matière préexistante. Tout devenir est uniquement au niveau de la forme qu'on éduit de la matière. Et par le fait même, la création telle qu'en parle Platon n'est pas et ne peut pas être l'œuvre de Dieu, du Créateur. Donc, je crois que la critique d'Aristote est très juste et très intéressante. Elle est très juste parce que c'est vrai, l'analogie du facere, c'est-à-dire du travail artistique tel que la donne Platon, mais ce qui montre bien que le platonisme demeure une philosophie de l'âme. Puisque l'activité la plus parfaite qui soit, Platon la conçoit comme le facere, comme l'œuvre d'un artiste. Et que, de fait, Platon reste au niveau de la forme en soi comme étant ce qui est le plus parfait. Et donc, on ne peut penser que uniquement le lien entre la forme et la matière. Alors, Aristote dit non, ça ne peut pas être cela. Parce que concevoir la création comme le facere, ce n'est pas toucher l'être. Là, il y a un passage extrêmement intéressant dans le Decelo d'Aristote, où Aristote montre que la privation de la forme, donc uniquement regarder la matière, la privation de la forme n'est pas la négation absolue de l'être. C'est la négation de tel être. Parce que la forme, c'est pas l'être. Il faut aller plus loin, il faut découvrir le non-être absolu. La création ne peut se faire qu'à partir du non-être absolu. Au fond, Aristote a découvert là, il n'a pas poussé. Il a découvert là quelque chose que la tradition judéo-chrétienne avait bien manifesté, c'est que l'œuvre du Créateur est à partir de rien, ex nihilo. parce que ça fait partie de la tradition judéo-chrétienne. C'est déjà présent dans l'Ancien Testament. Et c'est présent de nouveau, évidemment, dans le grand prologue de Saint Jean. Où de fait, la création se fait à partir de rien. Et là, voyez, le philosophe touche là, Aristote touche là, que la création ne peut pas se faire au niveau de la forme, mais ne peut se faire qu'au niveau de l'être. Si elle se fait au niveau de l'être, elle acquit donc le non-être. Elle ne peut se faire qu'à partir du non-être. Alors, encore une fois, ce n'est pas explicité. C'est une critique qu'il fait à Platon. Ne comprenons pas la création au niveau du devenir, parce que le devenir n'est pas l'être. Le devenir, c'est le devenir de la forme. Et le devenir peut se comprendre qu'au niveau de la forme. Alors, si on parle de la création, on ne peut parler que d'un premier aspect premier. Aristote ne donne pas positivement ce que c'est que la création, il fait que la critique. Alors, peut-être qu'il en aurait parlé, peut-être. Peut-être qu'il en aurait parlé dans son livre sur Dieu, parce qu'on sait qu'il y avait un livre, Peripoutéo, au sujet de Dieu. Ça n'en sait rien, ça c'est des hypothèses. Après Aristote, quels sont ceux qui ont parlé de la création? Les stoïciens ne parlent pas de la création, ils parlent de la providence et du gouvernement divin. Les seuls qui auraient pu parler de la création, c'est Plotin. Mais Plotin, au sens strict, ne parle pas de la création, mais de l'émanation. Il considère l'émanation comme une communication de vie. Donc, au niveau, si vous voulez, d'une autre analogie, qui est l'analogie de la paternité. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que Proclus, donc après Plotin, Proclus au IIIe siècle, va dire que pour saisir la création, il faut toujours prendre deux analogies. L'analogie de Dieu premier au point de vue de l'être et premier au point de vue de la vie. Le Créateur et le Père. Mais il ne le développe pas, cela. Il montre simplement que, étant donné ce que nous a dit Aristote au point de vue de la finalité, Aristote aurait pu découvrir et aurait pu parler de la création. C'est intéressant de voir qu'un néoplatonicien comme Proclus reconnaît cela. Ceci, c'est dans son commentaire sur le Timée. Où il essaie de comprendre ce que c'est que la création. Donc, voyons bien qu'en philosophie grecque, il y a donc quatre grands philosophes qui ont parlé de la création. Platon, Aristote, Plotin et Proclus. Et qu'on est en présence de deux analogies dont ils se sont servis. L'analogie de l'artiste, l'analogie de la communication de la vie. Donc on pourrait dire la paternité. Ils ont de fait utilisé ces deux analogies. Si je regarde après, dans l'histoire de la philosophie occidentale, je vois que les théologiens ont parlé du point de vue de la création. Et que le théologien qui en a parlé de la manière la plus précise, c'est saint Thomas. Ça, je crois que quand on fait un peu l'historique de la création chez les divers pères de l'Église et chez les théologiens, je crois que là, on est obligé de reconnaître qu'il y a quelque chose de très particulier dans saint Thomas, grâce évidemment à l'utilisation d'une sagesse métaphysique. Il y a très peu de théologiens qui se sont servis d'une sagesse métaphysique. Très peu. Parce que comme sagesse métaphysique, je crois qu'il n'y a guère que saint Thomas. Alors, que dit saint Thomas sur la création? Nous l'avons vu. Quelle est l'intuition dominante de saint Thomas? Nous essayons de prendre uniquement cela pour nous mettre davantage sur les questions qu'il faudra traiter. Pour saint Thomas, la création, le mystère de la création, ne peut se comprendre qu'au niveau de l'essai. Je crois que ceci, c'est très net. À ce point de vue-là, il n'est pas platonicien, il n'est pas néoplatonicien. Il est dans la ligne directe du De Cello. Mais évidemment de façon positive, donc d'une façon tout à fait nouvelle. Saint Thomas dit textuellement que la ratio créationniste, la raison formelle de la création, la ratio formalis créationniste, ne peut être que laissée participer. Donc, je crois que là, il y a quelque chose de très important, parce que c'est quand même une intuition qui, autant qu'on peut le regarder dans Saint Thomas, a été constante dans l'avancée de Saint Thomas. C'est par le point de vue de l'être que nous pouvons remonter vers Dieu, et c'est par le point de vue de l'essai que nous pouvons comprendre le lien qui existe entre le Créateur et la créature. Ce n'est pas au niveau de la forme, ce n'est pas au niveau de l'esprit. Et ceci, c'est quand même très important, parce que les modernes voudraient trouver le problème de la création au niveau de l'esprit, de l'ontologisme. Or, au niveau de l'esprit, c'est impossible. Je ne peux pas découvrir le problème de la création au niveau de l'esprit. Pourquoi ? Alors que ce serait très tentant, puisqu'au point de vue de l'esprit, on dirait Dieu. Ce n'est qu'au niveau de l'esprit que je découvre l'image de Dieu. Et donc là, il y a quelque chose qui me met particulièrement proche de Dieu. C'est parce que toutes les réalités qui existent ne sont pas esprit. Or, toutes les réalités qui existent doivent être regardées comme dépendantes de l'être premier. Si Dieu est créateur, il est créateur de tout ce qui n'est pas lui. Donc, on ne peut pas s'arrêter au niveau de l'esprit pour expliquer la création. On ne peut pas s'arrêter donc à l'analogie du Père. Il faut aller plus loin. Il faut découvrir quelque chose de tout à fait particulier qui est la communication de l'être. Le propre du Créateur, c'est de communiquer l'être. C'est pour ça que la raison formelle de la création, c'est l'essai. Quand vous regardez ensuite chez Octave, le problème de la création n'est plus du tout vu au niveau de l'essai, il est vu beaucoup plus au niveau de la continuité, de la conservation. Parce que le point de vue métaphysique n'est plus regardé dans toute sa pureté, alors on a le problème, on glisse vers le point de vue de la durée. Quand vous regardez chez les philosophes, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de philosophes qui ont traité de la création. Chez les thomistes, vous avez quand même quelques philosophes qui ont regardé la création. Au fond, très peu. La plupart ont répété saint Thomas au niveau de la création en doctrina sacra, mais au niveau purement philosophique, on a un peu laissé tomber le problème. Quand vous regardez la scolastique traite de la métaphysique, la scolastique ne traite pas de la sagesse. La dernière chose qu'elle fait, c'est essayer de montrer l'existence de Dieu, et puis c'est tout. Elle ne traite pas de la sagesse, et donc elle ne traite plus du problème de la création. C'est très curieux de voir qu'au fond, le problème de la création était abandonné. Chez les non-thomistes, vous avez, chez Descartes, ce n'est pas le problème de la création que Descartes a traité. Il a vu la voie d'accès vis-à-vis de Dieu, mais chercher le problème de la création chez Descartes, vous ne voyez pas beaucoup. C'est très curieux de voir que le problème de la création a été comme abandonné. Vous avez chez Leibniz un souci de montrer le point de vue beaucoup plus de la providence de Dieu que le problème de la création. On montre les possibles que Dieu peut réaliser et comment Dieu réalise nécessairement le monde le meilleur qui soit. Alors, on retrouve Platon à l'intérieur de la Nice pour créer le monde le meilleur qui soit. On n'insiste pas sur la liberté du créateur qui existe, qui a créé un monde conforme à sa sagesse, mais le monde le meilleur qui soit. Et alors, avec Spinoza, vous avez le point de vue du panthéisme, la nécessité de la création. Donc, on peut dire que dans la tradition occidentale, ce serait intéressant à bien préciser, mais dans la tradition occidentale, le problème de la création a été très peu traité. Et pourtant, c'est nécessaire de le traiter si on veut aller jusqu'au bout de la sagesse. Donc, après avoir rappelé la nécessité de cette topic historique, très bref, nous allons maintenant nous poser, nous, le problème de la création, en sagesse philosophique. Comment se pose ce problème? Il faut donc, puisqu'il y a des traditions religieuses, puisque les théologiens en parlent, nous devons essayer de comprendre ce que le philosophe peut dire de la création. Il doit donc d'abord préciser où se situe ce problème, ce que nous avions fait tout à l'heure. Ce problème se situe pour essayer de saisir la relation qui existe entre l'être premier et le philosophe qui existe, et les autres hommes qui existent, et l'univers qui existe. Donc c'est un problème de relation. De relation au niveau de l'exister. Je crois que ça, c'est très important de situer tout de suite ce problème au niveau d'une relation. Parce que nous allons voir que, de fait, ça va être la précision de cette relation. C'est une question de relation. Quel est le lien qui existe entre moi-même et l'être premier? Comment saisir ce lien? Puisque j'existe, que l'être premier existe, nous existons ensemble. Et quel est ce lien qui existe entre ces deux existés? C'est une relation dans l'ordre de l'existé et au niveau de l'existé. Ce n'est pas du tout une relation au niveau des formes. Tout de suite, c'est au niveau de l'existé. On pourra se poser ensuite le problème, jusqu'où pouvons-nous découvrir la dépendance à l'égard de notre premier? Mais ce qui est très important, c'est de souligner que le premier problème qui se pose, au point de vue de la création, point de vue philosophique, c'est le problème d'une relation dans l'ordre de l'existé. Cette relation dans l'ordre de l'existé est-elle une dépendance relative, une dépendance absolue ou une totale indépendance? Dès que vous posez le problème de la relation, c'est ce que vous devez poser. Vous voyez que ces deux existés, ils existent. Est-ce qu'ils existent indépendamment l'un de l'autre? Vous avez une relation d'exister avec votre voisin? Bon. Est-ce que vous existez indépendamment de votre voisin? Vous dites oui. J'existe complètement indépendamment de mon voisin. La relation que j'ai avec lui, c'est une relation d'amitié, mais ce n'est pas une relation au niveau de l'exister. Complètement indépendant au point de vue de l'exister. Il peut mourir, moi je peux continuer d'exister. Heureusement. Donc j'ai une autonomie radicale dans mon ordre d'exister à l'égard de mon voisin, à l'égard de Dieu. Est-ce que je peux dire que cette autonomie? C'est la première question qui se pose. Alors c'est ici où il faut comprendre comment, à partir de la simplicité de Dieu que j'ai découvert, je peux dire que nécessairement mon existé dépend radicalement de Dieu. Mais voyez bien, je n'en ai pas l'expérience. Et ça, c'est très important de le comprendre. Je suis parti d'une relation et voyant cette relation, j'ai essayé de comprendre quel est le type de cette relation. Et cette relation, elle existe, puisque Dieu existe, j'existe, donc il y a une relation que mon intelligence établit. Alors, je veux savoir quel est ce type de cette relation. Et je dis que cette relation me met dans un état de totale dépendance à l'égard de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est absolument simple. Si Dieu est absolument simple, il est l'ipsum esse subsistens. Ça, c'est la grande conclusion de la simplicité. Il est dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de l'esse, dans l'ordre de l'exister. Il est premier. Et il subsiste dans son esse. Il subsiste dans son exister. S'il subsiste dans son exister, nécessairement tous les autres existés sont relatifs à lui. Ça, je peux le comprendre, hein, au plan proprement sagesse métaphysique. Il ne peut pas y avoir deux existés infinis. C'est métaphysiquement impossible. Il ne peut pas y avoir un Olympe de Dieu. Il ne peut pas y avoir deux Zeus. Il ne peut pas y avoir deux dieux. C'est métaphysiquement impossible. Alors, pourquoi ? Parce que cet exister, il est infini dans son exister. Donc, il n'est limité par rien. En lui, l'exister subsiste. Donc, il n'est pas reçu. Tandis que tout autre existait, le mien et tous ceux que je constate sont limités. Et donc, ils sont participés. Je crois que c'est la première chose que je dois voir. Mais là, le raisonnement de Saint-Thomas est un raisonnement, au point de vue métaphysique, que je puis très bien garder, parce que je crois que c'est un raisonnement proprement de sagesse philosophique. À partir de là que je dois comprendre, à partir de la simplicité de Dieu. Donc vous voyez, il faut réfléchir sur le mystère de la simplicité de Dieu, sur le fait que Dieu, parce qu'il est l'être premier, subsiste dans son existence. Et parce qu'il subsiste dans son existence, il est infini. S'il est infini, il n'est limité en rien. Il contient toute l'essence. C'est dans toute sa plénitude et sa perfection d'essai. Et donc, s'il existe un autre essai que je constate que j'existe, il ne peut pas être, lui, infini. Du reste, je constate que je suis limité. Mais il pourrait y avoir un autre essai limite, infini. C'est impossible. L'essai qui subsiste et qui est absolument infini ne peut être qu'un. Unique. Dieu est unique. Si Dieu est unique, tous les autres essais, tous les autres existés sont participés. Ce sont donc des essais qui, parce qu'ils sont participés, dépendent du premier essai. Sont relatifs à ce premier essai. Ils sont des essais qui sont limités. Ils sont participés limités. Parce qu'ils sont participés et limités, ils impliquent nécessairement une composition. En effet, ça, je peux constater que mon exister implique une composition. Qu'il est limité, qu'il implique une composition. Mais je n'en ai pas l'expérience. Hein. Et c'est là où il faut bien saisir que laisser participer n'est pas objet d'expérience. Donc je ne peux pas partir de laisser participer pour remonter jusqu'à Dieu. Ce serait une pétition de principe. Pour dire que mon essai participe, il faut dire nécessairement qu'il dépend de Dieu. Je pars de l'exister de Dieu pour rejoindre mon exister en disant que mon exister est un exister participé. Ça, je crois que nous pouvons le saisir. Une fois que nous avons compris que c'est à partir de l'être premier qui implique l'acte pur, parce qu'il est premier et qu'il est saisi comme acte pur, il est saisi dans toute sa pureté d'exister, que toutes les autres existaient en dehors de lui, autre que lui, sans un essai participer. Toute la question est de savoir comment comprendre ce lien de dépendance. Ce lien de dépendance qui se situe au niveau de l'essai. Puisque la simplicité de Dieu est au niveau de l'essai. Alors c'est pour saisir ce lien de dépendance que je vais essayer de saisir ce point de vue de la causalité. Par la participation, je saisis la causalité. Je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen. C'est par la participation que je saisis la causalité. Vous voyez, dans un ordre de sagesse. Ça, c'est un ordre de sagesse. Dans un ordre de sagesse, par le point de vue de la participation, je saisis la causalité. Parce que par la participation, je saisis la limite. Et je me pose la question, quel est ce lien qui existe entre les deux. Puisque je suis limité, je dépends donc de l'être premier, je suis donc causé. Tout ce qui est participé implique une causalité. Alors, quel est ce lien de causalité? Alors, la première question qui serait à faire au point de vue philosophique, c'est de montrer que je puis me servir de la causalité pour saisir ce lien de dépendance. C'est ce que nous verrons la fois prochaine. Comment je peux me servir de la causalité. Parce que vous comprenez que je soulève des problèmes énormes. Si je suis dans une perspective kantienne, ça n'a aucune possibilité. Il faut donc essayer de revenir à une notion de la causalité qui, elle, n'implique aucune imperfection. Autrement dit, que la cause implique un principe. Si la cause implique un principe, je peux l'appliquer à Dieu. Tandis que si la cause est identifiée à la loi, je ne peux pas l'identifier à Dieu. Si la cause implique uniquement une relation d'antécédent et de conséquent à la manière de Kant, je ne peux pas l'appliquer à Dieu. Donc il faut revenir à une notion analogique de la causalité pour pouvoir appliquer la causalité à partir de la participation.